Et nous allons passer à toute cette nouvelle semaine de destination dans un univers, celui de la photo, passion photographe. On va intituler comme ça la semaine que nous allons passer avec Axel Photoart, qu'on va vous inviter à découvrir via le site internet axel-photo-art.com, mais que l'on va découvrir tranquillement tout au long de cette semaine. D'abord Axel, ce titre de passion photographe, c'est ainsi que vous vous définissez aussi ?
Oui, tout à fait. Donc c'est surtout une passion. J'aime tout ce qui est naturel, c'est pour ça que je dis photographe artistique du naturel, en espérant que mon travail plaise.
Alors ça, chacun peut en juger, il y a le site internet, et on est là parce qu'on a été séduit. Alors passionné de photos, ça veut dire que ça remonte à combien de temps, les premiers souvenirs de photos ?
Donc ça doit faire bientôt 10 ans, je pense, une dizaine d'années, que je me suis intéressé à la photo doucement, au début avec un petit appareil réflexe. Et de fil en aiguille, j'ai découvert le côté technique de la photo, changer les réglages, les choses comme ça, c'était très intéressant pour moi. Et petit à petit, le côté artistique s'est emparé de moi jusqu'à maintenant, et j'espère continuer à progresser un maximum.
Donc, autodidacte, ça veut dire, hein ?
Oui, tout à fait, oui. Je suis venu à la photo parce qu'au début, j'étais donc formateur en informatique. Je formais régulièrement des professionnels sur Photoshop. Photoshop, forcément, il faut quand même s'intéresser à la photo. Donc j'ai acheté un premier réflexe. J'ai quand même beaucoup appris avec les revues qu'on achète en presse. Et de fil en aiguille, je me suis intéressé beaucoup au côté technique, beaucoup aux réglages dans un premier temps, parce que c'est important les réglages sur un appareil photo. Et petit à petit, j'en suis venu à tout ce qui est plus artistique, plus des techniques comme le light painting, le HDR. Et tout ce qui peut toucher le naturel et l'artistique m'a intéressé très vite.
Ouais. On dit HDR, light painting, on comprend rien, mais on va comprendre tout ça dans la semaine. Ne vous inquiétez pas, on va tout vous détailler. Les réglages photo, c'est vrai qu'on a tous un appareil photo à la maison. On est, je pense, 98% à le voir bloqué sur automatique. C'est beaucoup plus simple.
Oui, le mode automatique, bien sûr, aucun photographe le conseillera, mais ça permet quand même de faire des belles photos, puisque maintenant les appareils photos sont très performants, ils comprennent même directement si on veut faire un paysage, un portrait ou quoi que ce soit, et donc ils font leur réglage en rapport aussi bien qu'un professionnel. Mais après, quand on veut sortir un petit peu des lignes des photos académiques, on est obligé de toucher au réglage. Donc moi je conseille, dès que possible, dès qu'on a compris un petit peu les bases, de toucher les réglages. Il y a les modes temps, les modes AV et le mode 100% manuel, et il faut pas hésiter à y toucher.
Et pourquoi pas rêver de réussir à faire le même résultat que ce que vous découvrez sur le site d'Axel. Alors on disait photographe artistique du naturel, on va peut-être détailler quelle est la définition. C'est autoproclamé.
Oui, tout à fait. Donc, photographe artistique du naturel, c'est tout simplement parce que c'est le côté artistique qui m'intéresse et le côté naturel. Pour les paysages, par exemple, ben, quoi de plus naturel qu'un paysage ? Je fais de l'animalier, je fais de la macrophotographie, et pour les humains, ça se retranscrit sur du nu artistique. Parce que, à mes yeux, lorsqu'on fait du nu artistique, on est au naturel. On perd toute classe sociale, on n'a plus une belle robe, des belles chaussures, qu'on soit avocat, femme au foyer ou étudiant. Tout le monde est au même niveau quand on fait du nu artistique. Donc c'est beaucoup plus naturel à mes yeux que ce que nous impose notre société de consommation en choses superficielles.
Et on aura l'occasion de parler de ce nu artistique mercredi et de voir un petit peu, d'abattre quelques préjugés que certains pourraient avoir. Ce travail de photographe, il est à destination de qui essentiellement ?
Je travaille avec beaucoup de monde puisque je fais beaucoup de choses, peut-être trop. Donc je travaille avec des particuliers, donc des modèles, plus des femmes que les hommes, puisque comme je fais du nu artistique, c'est plus facile avec les courbes féminines, qui sont plus sensuelles. Malgré tout, j'ai quelques hommes. Et je travaille aussi avec donc des agences environnementales, ce qui me permet de beaucoup voyager pour la photo et la photo animalière.
Voilà, et qui nous fait voyager, nous aussi, via le site, on en reparlera. Et alors, on se souvient des premiers pas, peut-être la première photo, celle voilà, qui reste comme la fierté, la première photo, on va dire entre guillemets, pro.
Alors oui, la première photo, je sais pas si on peut dire pro, parce que la première photo, on va dire où je me suis appliqué, c'est celle qui est sur mon Facebook, c'est un cœur en lumière avec une partition, et ça c'était une de mes toutes premières photos. Ça faisait peut-être pas 6 mois que je faisais la photo, et c'est la première dont j'étais vraiment fier et qui dure maintenant 10 ans après, que j'ai toujours que j'ai pas supprimé contrairement à d'autres que j'ai trouvé très loupées. Et celle-ci je la garde, oui, parce que c'était la toute première. Ouais.
On peut aussi expliquer que vous avez, vous, une particularité qui, alors, pourrait être qualifiée d'handicap au départ, mais dont vous avez fait, vous, finalement, une force.
Effectivement, je suis daltonien tétrachromate, ce qui veut dire que j'ai une palette d'arc-en-ciel un petit peu plus étendue que la moyenne, Mais malheureusement, ça déforme mon arc-en-ciel comparé à la vision des gens normaux, si on peut appeler ça comme ça. Je vois la première gamme d'infrarouge et d'ultraviolet, ce qui fait que mon arc-en-ciel est malheureusement plus étendu. Je dis malheureusement parce que s'il fait clair, le rouge, je vais le voir rose. S'il fait sombre, je vais le voir marron. Donc ça, c'est le point faible. Mais l'avantage, c'est que je vois des lumières que d'autres ne voient pas. Et comme la lumière, c'est la base de la photo, ça me permet d'aborder vraiment ça différemment. Je montre toujours mes photos avant de les publier sur Internet, sur un forum privé de photographes qui savent que j'ai cette qualité ou ce défaut, on le prend comme on veut, et ils me disent « Ah ben, effectivement, cette photo, elle est bien, elle est techniquement comme il faut, mais il y a un peu de vert ici. » Et le vert, moi, je l'avais pas vu. Ou une modèle qui a des rougeurs que j'avais pas gommées comme il faut, ou voilà, des choses comme ça.
L'effet inverse peut marcher aussi, il peut y avoir des belles surprises finalement.
Tout à fait, oui. Là, je me repenche sur un de mes premiers amours en photo, c'est le light painting, donc la peinture de lumière. Et justement, là, c'est une force, ce daltonisme, parce que on dessine avec la lumière, et comme je l'aperçois différemment, je sais que mes premières photos, quand je les ai montrées sur les forums de photographes pro, j'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup de compliments, et ils connaissent la technique. Ils n'arrivaient pas à comprendre comment je faisais ça.
Pour terminer, et avant de parler demain de tout le matériel, hein, parce qu'évidemment, pour faire des photos de ce niveau-là, il faut beaucoup de matériel, on aura l'occasion de passer en studio demain. Un mot sur la photo d'aujourd'hui, on l'a dit, hein, on a l'impression que tout le monde fait de la photo, notamment avec les téléphones portables. On va dans le bon sens, c'est-à-dire la photo est de plus en plus accessible ou malheureusement on gagne en quantité mais on perd un peu en qualité.
Alors je ne sais pas si c'est un bien ou un mal. Effectivement les smartphones ont fait des photos de mieux en mieux avec. Effectivement la photo est abordable à beaucoup de monde. N'importe qui peut acheter un réflexe, appuyer sur le bouton et faire des belles photos. Il y a beaucoup d'amateurs aussi qui font des très belles photos, même mieux que des professionnels. Pour de la photo animalière, malgré tout, on pourra pas faire avec un smartphone. Mais ça reste un milieu très bouché. Je pense que ce qui peut-être tuera la photo, c'est que beaucoup trop de monde achète un appareil photo et tout de suite, 2 mois après, se dit photographe et propose des photos gratuites à tout le monde pour faire des mariages, pour des modèles. Ça tue la photo.
Et après, il y a le côté papier hein, aussi. Aujourd'hui, on tire de moins en moins les photos, ça reste coincé dans les téléphones. Ça aussi, c'est un danger malheureusement de perdre l'objet. Quand on fait des photos, on est aussi un amoureux de l'objet photo.
Oui, ça c'est l'ère du numérique. Après, pareil, je ne sais pas si c'est un bien ou un mal. Moi, je sais que j'ai fait beaucoup de tirages pour faire des expos. Et j'aime bien avoir le côté papier, voir la photo, voir le résultat. Qui d'ailleurs est souvent bien plus intéressant que sur un écran, puisqu'on y gagne beaucoup en qualité à avoir un tirage grand format.
Et notre deuxième rendez-vous de cette semaine à la découverte de l'univers de la photo, une passion pour Axel, axelphotoart.com, voilà l'univers que vous pouvez découvrir sur internet et dont nous parlons tout au long de cette semaine. Alors on a parlé un petit peu de la naissance de cette passion, Axel, dans le rendez-vous d'hier. Là on va commencer à parler un peu technique, d'abord en termes de matériel, on est dans le studio là en l'occurrence, donc on va pouvoir décrire les choses. Est-ce qu'on a un souvenir du premier appareil? Évidemment il marque, c'est un petit peu le coup d'envoi de tout ça.
Oui, alors mon premier appareil réflexe, si on veut dire appareil professionnel, c'est un Canon 1000D. Je crois que ça valait dans les 400€ à l'époque. C'était vraiment pour débuter. J'ai fait comme tout le monde, j'ai fait le mode automatique. Petit à petit, j'ai acheté des revues, je me suis documenté, j'ai appris par internet. Et je crois que cet appareil photo m'a duré 6 mois avant que je passe au modèle au-dessus. Et puis encore au modèle au-dessus. Et petit à petit, les modèles, y a un zéro qui se rajoute et c'est de plus en plus cher. Et après, on se rend compte que c'est pas tant le boîtier qu'il faut changer, mais les objectifs. Et les objectifs coûtent aussi cher. Et puis, on se rend compte qu'il faut en acheter un, puis deux, puis trois. Et à la fin, ça fait un très gros budget, effectivement. Il y a une gamme d'objectifs, si on veut avoir le panel complet, qui va du grand angle pour les paysages ou pour ma part pour faire aussi des panoramiques 360, donc c'est du très grand angle, jusqu'au téléobjectif, les zooms. Ce que j'ai, c'est un 600 mm pour faire de l'animalier. Si on a toute la gamme d'objectifs, ben on a plus de 25 kilos dans son sac à dos.
Et quand on part en voyage, évidemment, on aura l'occasion d'en parler demain. Ça muscle un petit peu les épaules. Alors là, on est au cœur du studio. Ça aussi, c'est un investissement parce qu'il n'y a pas que les appareils. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de matériel autour.
Bien sûr. Donc la base de la photo, c'est la lumière. Donc effectivement, il faut des lumières. J'ai plusieurs flashs. J'en ai en tout 6 de différentes puissances. J'ai aussi des lumières continues qui sont différentes des flashs qui permettent plus de polyvalence, mais une moins bonne qualité. Donc il faut beaucoup de flash, il faut des fonds. Donc là j'ai des fonds de couleur gris qui permet de faire un petit peu tout, le gris, puisque surexposé il devient blanc, sous-exposé il devient sombre. Donc le gris c'est la couleur neutre hein, en photo. Du noir pour faire souvent du nu artistique ou des portraits en clair-obscur, des choses où la lumière est plus travaillée, et du blanc pour faire l'opposé du clair-obscur, du haïké, donc des lumières surexposées, mais où on voit toujours le grain de peau, où on voit toujours les détails.
Donc voilà, ça c'est les fondamentaux. Après, il y a des accessoires, des choses plus optionnelles, mais quand on est un amoureux de la photo, évidemment, il nous les faut aussi.
Alors des accessoires, il y en a trop. Donc alors, si on fait dans l'ordre, il y a tout ce qui est flash déporté, donc émetteur-récepteur, l'appareil photo émet vers le flash pour envoyer le flash. Ensuite, il y a les flashs donc de studio avec boîte à lumière, des grosse boîte à lumière, celle-ci fait 1m80, l'autre 2m.
Oui, c'est ça, on imagine le flash au-dessus de l'appareil photo, on n'est pas du tout là-dessus. Hein. C'est sur trépied, donc c'est des choses voilà. Très imposantes. Hein.
Tout à fait, oui, c'est sur trépied, c'est des flashs très puissants, avec des grippes pour diffuser la lumière où on veut. Les grippes, c'est des sortes de grilles, soit en forme de nid d'abeille, soit en forme de carré, pour diriger la lumière là où on veut. Et devant ces grippes ou derrière les grippes, il y a un diffuseur pour que la lumière soit plus douce, pour qu'elle soit forte et douce à la fois, pour bien dessiner ce qu'on veut dessiner.
C'est vraiment canaliser la lumière, c'est ce travail de lumière qui va déjà faire une très grosse partie du travail de la photo. Hein.
Voilà, si une photo a une belle lumière, même si le sujet, que ce soit une boîte en carton ou n'importe quoi, si la lumière est belle, la photo, il y a de grandes chances qu'elle soit belle. Ensuite, donc toujours côté flash, on a les flashs Cobra, donc eux qu'on peut mettre sur l'appareil photo avec une griffe. Et après, on a les flashs, alors ceci. Voilà, celui-ci, c'est un flash très spécial, c'est un flash pour la macrophotographie. C'est un flash twin, ça s'appelle, qui envoie à deux effets de deux flashs. L'objectif se met au centre et il est très près de l'objectif puisque quand on fait de la macrophoto, on est à 1 ou 2 cm du sujet photographié. Donc ça, c'est un flash vraiment spécifique qui sert que à ça.
Donc ça, quelques accessoires encore sur les étagères. On a l'impression qu'il y en a partout, hein, de toute façon.
Il y en a effectivement un peu partout. Donc un peu plus loin, on peut voir qu'il y a des snoots, ça s'appelle. C'est ce qui se met sur les flashs de studio, qui permet encore plus de canaliser la lumière sur un point précis. Ensuite, donc, il y a tout ce qui est accessoires pour trépied. Les trépieds, c'est toujours embêtant à bouger. Donc c'est des roulettes à trépied, tout simplement. C'est un accessoire qui peut paraître tout bête. En fait, on pose le trépied à l'intérieur, ça fait un triangle, et ça permet d'avoir des roulettes pour se balader partout. Tous les accessoires, on peut s'en passer, mais quand on les a, on se dit, mince, comment je faisais avant?
Et on se demande encore comment on peut faire sans ceux qui vont arriver bientôt, c'est ça?
Oui, on en veut toujours plus, c'est un budget.
Puis alors après, il y a face à nous des lumières, donc ça c'est ce qui va servir, on aura l'occasion d'en parler en fin de semaine pour le fameux light painting.
Oui, donc j'ai plusieurs sources de lumières différentes. Des fils, des lumières flash, des lumières de couleur, des lumières LED, des lampes torches de base, une lampe solaire. C'est vraiment que pour le light painting, j'essaye de diversifier un maximum les sources lumineuses pour faire des effets différents à chaque fois.
Donc voilà, c'est une petite partie hein, de tout ce qui est nécessaire pour faire les photos que vous découvrez sur axelphotoart.com. Et puis il y a les photos et puis ensuite il y a le travail informatique, c'est-à-dire que bah, là aussi il faut des logiciels, je suppose, pour passer au travail une fois les clichés dans la boîte.
Oui, donc j'utilise principalement Photoshop comme tout le monde. Après, tout dépend du genre de photos qu'on fait. Pour les photos de paysages, par exemple, ou d'animaux, les photos sont très très peu retouchées. Après, pour les photos de modèles, j'essaye un minimum de retoucher les photos. Le but, c'est que la retouche ne se voit pas. Donc, c'est juste améliorer légèrement les lumières parce qu'elles sont, même si elles sont réglées au millimètre près, elles sont jamais parfaites à 100%. Des fois, un petit grain de peau, un petit détail à changer. Mais c'est tout. Ça se limite à ça. Il faut que ça ne se voit pas. J'essaye toujours un maximum de bien réfléchir à la photo avant pour avoir le minimum de retouches à faire.
On peut parler du HDR également. J'ai vu ça sur le site. Qu'est-ce que le HDR?
Le HDR, donc, en anglais, High Dynamic Range. C'est le cumul de 3 photos, une sous-exposée, une normale et une surexposée, pour qu'aucune des zones de la photo ne soit cramée, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que si on prend une photo dans une pièce sombre, si on prend en photo une fenêtre, la fenêtre sera beaucoup trop claire, on ne verra pas l'extérieur. Donc on cumule plusieurs photos, plusieurs images, pour avoir l'extérieur et l'intérieur exposés correctement. Mais on peut faire des réglages très différents pour avoir des rendus qui deviennent surréalistes. C'est beaucoup utilisé sur ce qui est de la pierre et des nuages. Donc si on pousse un petit peu trop les réglages sur les nuages, ça fait des nuages vraiment irréels, qui peuvent donner une ambiance à une photo irréelle.
Alors, évidemment, on a commencé à parler d'un peu de budget. Quand on voit le prix d'un appareil photo, l'ensemble de ce matériel-là, ça représente des sommes assez considérables. C'est la passion qui fait qu'on ne regarde pas trop, on cumule pas les factures pour voir combien ça fait au total.
Effectivement, je préfère pas savoir pour combien j'en ai. À vue de nez, Je sais que ça vaut bien une ou deux voitures.
Ouais. Pour faire des belles photos de belles voitures. Après, ça suffira. Et puis l'évolution, on le sait, hein, c'est les smartphones. On fait de plus en plus souvent les photos avec les smartphones. C'est par là que la photo risque de se développer finalement dans les années qui viennent.
Les smartphones, effectivement, bah, tout le monde en a. Donc tout le monde peut faire des photos. Et les smartphones, maintenant, calculent de façon à imiter les appareils photoréflexes. Et avec les derniers smartphones, sans vouloir en faire la publicité, on peut faire des très belles photos. Puisque de toute façon, la base de la photo, c'est la lumière, comme je dis souvent, mais c'est aussi l'œil du photographe. Donc il suffit qu'on ait un bon œil, avec un appareil photo même nul, on peut faire de très belles photos.
C'est-à-dire que l'évolution, ça risque d'être la disparition après celle de la pellicule, de l'appareil photo en lui-même.
Je pense, oui, qu'effectivement, les réflexes sont peut-être pas encore en fin de vie, mais que ça va rester des appareils photo vraiment pour photographes passionnés ou très professionnels ou très spécialisés. Moi, je fais rarement des photos avec mon smartphone, forcément.
C'est un sacrilège.
Oui, c'est péché. Hein. Puisque j'ai des objectifs photos qui permettent de faire de l'animalier, chose qu'on ne peut pas faire avec un smartphone. Ou alors des photos très grande vitesse qu'on ne peut pas faire non plus. Ou certains réglages, comme du light painting. Et encore, je dis une bêtise, certains smartphones le permettent maintenant.
Ils vont faire de plus en plus de choses, puis l'idée c'est quand même de se dire, à la limite, l'intérêt c'est que au moins tout le monde puisse s'initier à la photo, même si ça doit commencer par le smartphone.
C'est possible, oui, que ça soit un déclencheur pour passer à du matériel professionnel. Après, quand on voit la différence de prix entre le matériel professionnel et un smartphone, même si les smartphones sont quand même assez chers, c'est un vrai investissement, donc il faut avoir un retour derrière.
Notre troisième rendez-vous de cette semaine de destination sous-titrée Passion Photographe, la photo que nous découvrons avec Axel. Axel Photo Art, c'est ainsi que vous pouvez le découvrir via Internet, hein, notamment avec le site axel-photo-art.com pour découvrir ce que sont les photos d'Axel et nous vous expliquons un petit peu l'envers du décor tout au long de cette semaine. On va rentrer justement dans ces types de photos que vous réalisez et en l'occurrence, peut-être ce qui va attirer le public au premier regard, c'est le nu artistique qui fait partie aujourd'hui du gros du travail qui vous incombe. Il y a aussi le côté modèle, le côté portrait.
J'ai beaucoup de demandes. Après, faute de temps, je fais pas énormément de portraits. Effectivement, j'en fais de temps en temps. J'ai le luxe de pouvoir me permettre de choisir les personnes qui m'inspirent.
Alors quand on dit portrait, soyons clairs, c'est pas la photo pour mettre sur la carte d'identité, hein.
Non, du tout, c'est des portraits. Les derniers que j'ai faits, c'était en extérieur, dans un petit coin de bambou, à bord d'un lac. Enfin, c'est des portraits pour mettre en valeur la personne le mieux possible.
Qui fait appel à vous pour les portraits, justement? C'est des professionnels, c'est des amateurs qui viennent toquer à votre porte?
Alors, il y a des modèles professionnels, des mannequins, et des particuliers, tout simplement, qui veulent des portraits. Beaucoup de personnes qui ont besoin de reprendre un petit peu confiance en eux, et d'avoir des belles images, et de se dire, ah oui, c'est moi, je suis bien de ce qu'on te fait.
On a notre modèle à nous, qui est là, qui va nous servir de cobaye pour faire ces quelques photos. On explique donc en quelques mots comment on procède.
Très bien. Donc, en général, je mets un petit peu de musique pour que ce soit convivial. Donc, j'ai l'appareil photo souvent sur trépied devant la modèle qui est branchée directement à l'ordinateur.
Donc là, l'écran s'allume pour que le modèle se voit. On peut préciser aussi que derrière, il y a une glace, donc on peut se voir un petit peu partout. L'idée, c'est que le modèle soit le plus à l'aise possible, maîtrise un petit peu aussi les choses.
Tout à fait. Au début, on discute toujours de ce que la modèle veut ou si c'est une collaboration de ce que moi, je recherche. Mais ça reste une collaboration, il faut que ça nous inspire tous les deux. Une fois qu'on a trouvé le bon angle, la bonne lumière, on fait plusieurs séries de photos et on peut passer une journée entière pour avoir juste 2-3 photos acceptables.
Que tout le monde, voilà, tout le monde s'y retrouve.
Donc, la base, bien sûr, c'est la lumière. Et après, il y a quelques règles photo pour que la photo soit académique. Par exemple, la règle des tiers. Il y a de nombreuses règles à respecter. Et une fois qu'on connaît bien ces règles, en fait, il faut s'en éloigner un petit peu pour faire des photos un peu plus artistiques et pas trop conventionnel.
Donc le travail de lumière, ça prend beaucoup de temps.
On fait beaucoup de tests. Je gère un angle de la modèle et après je gère un angle de la lumière. On fait un test et si ça va pas, on bouge un petit peu les lumières. Des fois ça se joue à 1 mm près et des fois faut carrément tout changer parce qu'on n'est pas sur la bonne piste. Donc ça peut prendre beaucoup de temps ou comme des fois en 5 minutes, on fait vraiment une très belle photo.
Il faut être patient en tant que photographe et en tant que modèle aussi donc.
Aussi, ça demande beaucoup de patience parce qu'il faut à chaque fois tenir la pose. Changer juste un bras, changer juste un petit détail, et il faut être très patient. Ça s'improvise pas comme ça d'être modèle, effectivement.
La magie de la radio fait qu'on va aller beaucoup plus vite que dans la réalité, évidemment, pour faire les réglages. Et donc ensuite, comment on procède?
Donc après, je fais une première photo, on va dire, dans le vide pour que la personne la voit. Hop. Donc la photo s'affiche sur le grand écran. Là, c'est une lumière classique, puisqu'on a un Velux au-dessus, donc qui met pas forcément en valeur notre modèle. Après, on va essayer de sculpter la lumière pour mettre en valeur ses traits, son sourire, son regard. Ça dépend de ce qu'on recherche sur la modèle, mais tout se fait avec la lumière et les réglages de l'appareil photo. Hop. Un premier essai.
Ça veut dire que chaque réglage sera forcément différent en fonction du modèle, en fonction de son grain de peau, en fonction de la couleur de peau.
En fonction du grain, de la couleur, de la distance entre l'appareil photo et la modèle, la distance entre flash et la modèle. On a plusieurs paramètres sur l'appareil photo, donc il faut trouver le juste milieu entre ces paramètres pour obtenir la photo qu'on veut.
On va essayer.
Voilà. Donc on voit que comme la lumière est sur le côté, et qu'elle est quand même un peu près et un peu forte, ça dessine trop les traits, on voit trop le grain de peau. Donc pour ça, on va la diffuser un peu plus. Pour la diffuser un peu plus, il faut changer les réglages de l'appareil photo, changer l'angle, changer un petit peu tout en fait. Hop. Voilà, donc là, la lumière, on voit que sur le côté gauche du visage, elle est moins dure. Après, sur le côté droit, ça accentue encore un petit peu trop les traits. Donc là, avec notre modèle, avec son grain de peau, effectivement, faudrait pas une lumière comme ça, faudrait une lumière qui est moins puissante. Mais voilà, ça peut faire un beau portrait. Ensuite, je parlais un petit peu des règles. Donc là, on est dans la règle des tiers, c'est-à-dire que si on coupe la photo en trois, dans les deux sens, horizontal et vertical, on voit que l'œil arrive pile à ce qu'on appelle un point fort des règles des tiers. Et c'est pour ça que la photo va nous accrocher un petit peu l'œil, parce que l'œil de la modèle est dans ce point chaud de la photo. Si j'avais centré la modèle à gauche alors qu'elle regarde à gauche, on n'aurait pas compris la photo parce que son regard va par là, donc il faut plus de place sur ce côté. C'est une des règles que soit on a naturellement, soit on apprend.
Alors là, on est sur un portrait uniquement. Évidemment, le travail il est différent quand on fait du nu artistique, hein, donc qui est une autre discipline que vous gérez.
Là, j'ai fait simple pour l'exemple, il n'y a qu'une lumière. On aurait pu améliorer ce portrait simplement en mettant une lumière derrière la modèle pour éclairer le fond, pour faire un halo de lumière derrière elle, ce qui fait qu'elle serait plus détachée du fond. Donc ça nous accrocherait encore un peu plus l'œil. Après, on aurait pu rajouter une lumière carrément derrière elle, ce qui aurait dessiné sa chevelure. Et le nu artistique, c'est un cumul de tout ça, plusieurs sources lumineuses. Donc je commence toujours par une lumière, puis j'en rajoute une, etc.
Donc, on se dit que c'est pas forcément très confortable au moment de la photo pour la modèle.
C'est vrai, il y a beaucoup de travail. Les poses sont pas toujours... J'essaye de chercher des poses qui sont confortables pour les modèles. Mais des fois, j'ai fait effectivement des poses qui sont très difficiles à tenir. J'ai des modèles qui sont repartis avec des courbatures parce que ça fait travailler les abdos. Et c'est pas toujours facile. Quand on a une bonne lumière, un bel angle, il faut le garder jusqu'à ce qu'on l'ait amélioré, jusqu'à avoir la bonne photo.
Et puis quand on repart avec la belle photo, on est content finalement d'avoir donné tout ce travail, de s'être donné du mal.
Exactement, la belle photo reste toujours, alors vaut mieux prendre son temps pour la faire. Moi, je préfère toujours prendre mon temps.
Bon, alors, avant de reparler de ce nu artistique d'une façon très technique, d'abord peut-être le définir. Il faut faire la distinction entre ce qui est du nu artistique et on va dire de la photo de charme d'une manière générale.
Malheureusement, dès qu'on voit du nu, c'est sexuel. Alors qu'en fait, le nu artistique a pour but de valoriser la modèle, ou le modèle, ça devient une œuvre d'art. Le nu existe depuis que l'art existe, les peintres font du nu artistique, dans mon cas, je fais beaucoup de nu artistique féminin, pour mettre en valeur la sensualité et mettre la femme sur un piédestal, vraiment.
Ça veut dire aussi que c'est une relation différente qui s'instaure avec vous ?
Alors je pense que la relation est différente, dans le sens où la personne, effectivement, n'est pas habitué à se mettre à nu. Petite parenthèse, c'est vrai que j'ai remarqué que je travaille beaucoup avec des personnes du milieu médical parce que pour eux, le nu n'est pas un tabou. Ils le font beaucoup plus naturellement. Après, j'aime bien travailler avec des personnes qui n'ont jamais fait de nu, justement parce qu'elles ont ce côté naturel encore un petit peu pudique, un petit peu gêné, qu'ils perdent rapidement, en fait. Au bout de 10 minutes, un quart d'heure, souvent, les personnes me disent « mais j'ai pas l'impression d'être nu parce que je n'ai pas un regard sur elle qui est justement sexuelle, et moi je suis concentré sur mon appareil photo, sur mes réglages, sur mes lumières. Et en général, je pense que quand j'ai cette réflexion, c'est que je fais bien mon travail.
Alors sur le site justement, on peut voir une séance de nu artistique, la façon dont elle a été travaillée. Alors c'est très accéléré évidemment, mais on voit tout le travail, notamment au niveau de la lumière, les allers-retours, les changements d'axe de lumière, etc. C'est un travail très particulier pour juste une petite photo.
Oui, on voit bien dans la vidéo effectivement que la lumière est bougée des fois de 1 cm. Et c'est ça qui fait la différence, effectivement, parce que la lumière arrive peut-être un petit peu trop sur le visage, ou sur cette vidéo, il y a un voilage de tissu. Je voulais qu'il soit légèrement transparent, mais pas trop. Donc la lumière est réglée vraiment au millimètre près, effectivement. Cette vidéo dure peut-être 2 minutes. et on a mis une après-midi à la faire.
Puis alors, on voit par exemple sur cette vidéo, en l'occurrence, il y avait un effet de fumée qu'on aurait pu imaginer, qui avait été rajouté au moment du passage par l'ordinateur. C'est pas le cas.
Oui, tout à fait. Oui, très très peu de retouches sur cette photo. Donc j'ai utilisé une machine à fumer sur plusieurs angles pour avoir la meilleure fumée possible. La fumée, c'est quelque chose de difficile à gérer parce qu'il faut éclairer la fumée pour qu'on la voit, sinon elle est pas belle. Donc il faut éclairer la fumée sans éclairer la modèle. Et au final, c'est une photo, oui, qui a été très très peu retouchée.
Sans assistant, on voit bien sur la photo.
Effectivement, sans assistant. Alors, pour le nu artistique, je refuse les spectateurs, que ce soit petit ami, famille, ami, même si c'est des proches, parce que la personne n'est pas aussi naturelle s'il y a quelqu'un qui regarde au-dessus de l'épaule du photographe.
Normalement, on a la photo presque, avant d'avoir commencé, on a presque le cliché qui s'est fait dans la tête, et donc on essaye de coller à ça.
Oui, la photo est déjà en tête avant le début du shooting, même une semaine avant ou un mois avant.
Ouais. C'est vrai que la technologie évolue et qu'on puisse faire imprimer ce qu'on a dans la tête, mais on n'en est pas encore là, donc il y a encore un petit peu de boulot du coup avec.
C'est vrai, ça serait beau une imprimante à cerveau.
Et c'est notre quatrième et avant-dernier rendez-vous de cette semaine destination consacrée à cette passion de la photographie, passion qui anime Axel depuis plus de 10 ans maintenant. Axel que vous retrouvez sur internet, je vous rappelle le site axel-photo-art.com. On l'a dit, vous définissez-vous comme un photographe artistique du naturel, donc quoi de plus naturel que la nature, tout simplement. C'est vraiment quelque chose dont vous ne pourriez pas vous passer.
Oui, la nature, c'est vraiment la source d'inspiration principale. C'est vraiment ce que je préfère, partir dans la nature, que ce soit 2 mètres chez moi, dans mon jardin, ou à l'autre bout du monde. La photo du naturel, c'est la chose la plus simple, la plus inspirante et la plus passionnante pour moi.
Bon, j'avais bien fait une demande pour qu'on aille à l'autre bout du monde pour me faire une démonstration. Ça n'a pas été accepté. Alors, on va faire dans le jardin, en l'occurrence. On a quitté le studio dans lequel nous étions hier pour faire une petite démonstration. Il y a des spécificités quand on fait le travail de la nature. On va parler macro-photographie dans un instant, mais d'une manière générale, c'est différent de travailler en studio avec un modèle et travailler en extérieur.
Tout à fait, oui, parce qu'en studio, on choisit la lumière. En extérieur, on fait avec la lumière. Donc bien sûr, il y a quelques astuces pour régler différemment, mais on fait avec. Donc du coup, ça fait moins de possibilités et du coup, c'est plus facile en extérieur, à mon avis.
Alors, si ce n'est que la luminosité à l'extérieur, elle peut évoluer en une fraction de seconde.
Ça peut changer beaucoup de choses. Alors justement, on évite, contrairement à ce qu'on pense, puisqu'on pense qu'il faut beaucoup de lumière pour faire une belle photo. En fait, non, il faut, quand le ciel est nuageux, les nuages font un diffuseur naturel, ce qui fait que les ombres sont plus douces. S'il y a des ombres sur le visage, ou elles seront moins dures que s'il y a un plein soleil. Et donc, en général, les belles photos, que ce soit animalières ou même de portraits, se font au lever du soleil ou au coucher du soleil, parce que la lumière est plus rasante et plus valorisante.
Alors, on va reparler de la nature dans un instant avec une petite démo de macro-photographie, mais quand on parle des animaux, par exemple, c'est pas comme avec un modèle à qui on peut demander beaucoup de choses en studio et qui va être très docile. Un animal, c'est au photographe de s'adapter.
Effectivement, c'est beaucoup de patience. Des fois, c'est des journées ou au minimum des heures d'attente pour avoir le moment où l'animal est dans le bon angle, dans la bonne lumière, devant l'appareil photo, qui a les bons réglages, avec la bonne vitesse. Enfin, c'est des fois beaucoup de chance et des fois beaucoup de patience et des fois les deux.
On va faire avec les fleurs en ce qui nous concerne. Alors justement, avec ces fleurs-là, c'est l'occasion de parler de la macro-photographie. Alors, on le disait en préparant ce rendez-vous, j'avais moi en tête, c'est tout personnel, mais quand on parle macro-photographie, j'ai l'impression que c'est uniquement photographier des insectes de très très près ou des fleurs de très très près. Alors que la macro-photographie, on va peut-être expliquer ce que c'est, mais ça peut s'adapter à énormément de choses.
Donc oui, la macro-photographie, c'est principalement effectivement des fleurs ou des insectes. Mais ça, c'est tout ce qui est gros plan, on va dire. La macrophotographie, exactement, ça veut dire quand on photographie quelque chose qui fait 1 cm, ça fera 1 cm sur le capteur de l'appareil photo. Là, on est dans la macrophotographie. Donc pour ça, moi j'ai principalement 2 objectifs photo. Un qui permet de faire de la macrophotographie normale, donc 1.1. Et j'ai également donc cet objectif qui est pour les macrotistes, on appelle ça les photographes de macro, le MPE 65 qui permet d'aller au-delà. Là, si je zoome à fond, je sais pas si tu la vois, la petite araignée blanche, on verra ses yeux.
Ah oui, quand même.
Ouais.
Alors, évidemment, on va expliquer qu'on a une pâquerette devant nous et dans cette pâquerette, alors faut quand même être très attentif, on a une minuscule araignée blanche de surcroît sur les pétales blancs de la pâquerette, on va dire beige. Et donc l'idée, c'est que cette araignée-là qui nous paraît invisible à l'œil nu quasiment, sur l'appareil, on va voir des détails de fou.
Exactement, avec cet objectif, donc cette araignée qui fait à vue de nez 1 mm, je pense. Avec cet objectif, en zoomant au maximum, et avec cet appareil photo donc, qui est le 7D Mark III, que j'utilise principalement pour la minimalier et la macrophotographie, on peut zoomer jusqu'à voir ses poils, ou ses mandibules, ou ses pattes, en très gros plan. Donc là, j'attends qu'il y ait un peu moins de vent, parce que là, il y a une toute petite brise, mais dans l'objectif, j'ai l'araignée et la fleur qui se baladent à 100 km à l'heure. Donc on peut voir même les grains de pollen sur le dos de l'araignée, puisqu'elle est dans une pâquerette. On peut voir sa toile qu'elle a tissée, que je voyais même pas à l'œil nu, dans la pâquerette. Et on peut voir donc la transparence de ses pattes. Sur certains insectes, on voit même par transparence le cœur qui bat. La macrophotographie, c'est vraiment un autre monde. Et il n'y a pas besoin d'aller loin. Là, on a fait 5 mètres dans mon jardin.
Ah, c'est qu'on accède finalement à l'invisible, finalement, grâce à ces objectifs-là.
Oui, le monde du tout petit est infiniment grand.
Et ce qui est impressionnant, c'est qu'évidemment, quand on va imprimer ces photos-là, peut-être que le public ne se rendra même pas compte, parce qu'on va avoir l'impression que l'araignée, elle est forcément grande. Parce que quand on la voit aussi bien, on se dit que oui, mais dans la réalité, c'était une araignée classique d'une taille déjà raisonnable qui fait qu'on a pu la photographier ainsi. Est-ce qu'on arrive à se rendre compte de la puissance de cette macrophotographie ?
Alors effectivement, on n'a pas l'échelle, donc on ne sait pas si c'était une araignée de 1 mm ou de 5 cm. Mais après, très souvent, on le voit quand même au détail. Par exemple, les abeilles, on sait à peu près tous la taille d'une abeille, on voit les hexagones dans ses yeux, et si on regarde bien sur certaines photos, on voit même le reflet de l'appareil photo dans les hexagones de l'abeille. Ou une mouche, on peut voir ses glandes salivaires. Même une toute petite araignée, on peut voir ses crocs. Et c'est quand même assez impressionnant. Personnellement, moi, je suis un petit peu arachnophobe. Et je sursaute des fois avec une araignée d'un millimètre. Je sursaute derrière mon appareil photo parce que l'araignée s'est tournée vers moi et que j'ai l'impression qu'elle va me sauter à la gorge. Mais non, en fait, elle fait un millimètre et elle se tourne juste parce que le soleil l'a gênée.
Voilà, là, je me dis, une araignée était sur la pâquerette. Hop, sur celle d'à côté, une mouche venait de se poser. Quand on est photographe, on se dit, ah tiens, encore une autre idée. Exactement. Photo. Finalement, on a toujours envie de faire quelque chose, on a toujours une nouvelle idée.
Exactement, j'en ai vu une autre un peu plus loin là, qui me faisait de l'œil.
C'est ça, on a toujours un œil qui se balade quelque part. Alors évidemment, là, on est dans le jardin, on photographie des pâquerettes, mais on profite de cet amour de la photo et de cette maîtrise de la photographie pour aller photographier des choses, évidemment, on l'a dit, à l'autre bout du monde. Ça veut dire beaucoup de voyages. Qu'est-ce qui décide d'ailleurs ? On va faire des voyages en disant là, je vais pouvoir aller faire de super photos, ou alors on voyage et puis finalement notre voyage se transforme en reportage photo. C'est ça qui va finir par rythmer notre séjour.
Alors les voyages, je les décide surtout selon ce qui m'inspire. En général, c'est plutôt vers le soleil. Mais malgré tout, il y a des lieux comme l'Islande qui sont magnifiques justement pour la photo. Donc les voyages sont décidés pour la photo en grande partie quand même.
Donc on n'imaginerait même pas partir en voyage sans appareil photo.
Ah non, c'est inconcevable, c'est inconcevable. Et au contraire, même mes proches qui sont pas forcément passionnés de photo, j'insiste pour qu'ils prennent un appareil photo et qu'ils ramènent des photos quand ils vont en voyage.
Oui, c'est ça, quand on partage son voyage avec quelqu'un, est-ce que on se met pas tout le monde à dos en disant bah, « Attends, mais lâche-nous ton appareil photo 2 minutes, profitons, c'est compliqué de trouver le juste équilibre ?»
C'est vrai, oui, ça... Moi, j'adore montrer mes photos forcément, mais d'autres personnes, ça les intéresse pas du tout.
Et bien alors, on a parlé de tout le matériel mardi qui est en studio, avec eh bien à chaque situation un objectif, à chaque situation presque un appareil photo. C'est-à-dire quand on part en voyage à des milliers de kilomètres de la France, on part avec combien ? 25 tonnes de matériel sur les épaules ?
25 tonnes, c'est pas tout à fait ça, mais 25 kilos, oui. Ce qui pose problème, puisqu'en bagage en soute, on est limité à 20 kilos. Donc je fais un sacrifice, souvent j'ai un objectif un peu gros, un 150-600 qui lui finit en bagage en soute et pas en bagage à main, entouré de mousse et de tout ce qu'il faut pour le protéger.
Voilà, et on comprend qu'il n'y a pas de vêtements dans les valises, on les achète sur place pour pouvoir mettre un maximum d'appareils photo. Et puis ça veut dire aussi qu'on rentre avec énormément de clichés. Donc comment ça se passe après ? C'est un travail de titan pour faire le tri ?
Alors effectivement, quand je rentre, c'est entre 5 et 10 000 photos à trier. Donc je fais un premier tri en général à la va-vite, vraiment que celles qui m'accrochent l'œil, je les mets de côté. Mais après, quand j'y reviens, il y en a d'autres qui m'accrochent encore l'œil. Donc en général, je pense que je mets plusieurs mois pour trier toutes les photos et après en diffuser juste une toute petite partie sur internet.
Voilà, parce qu'effectivement on peut partager une partie de ces voyages là, notamment je crois le Sri Lanka qui fait partie des récents coups de cœur.
Oui, c'est le dernier voyage où j'ai eu la chance de faire donc deux safaris photos qui étaient vraiment exceptionnels, puisque le Sri Lanka Et à mes yeux et à ce jour, jusqu'à ce que je fasse peut-être un autre voyage, vraiment un paradis pour les photographes. Du côté animalier, paysage et même culture, c'était un voyage exceptionnel.
Et c'est déjà notre tout dernier rendez-vous de cette semaine en compagnie d'Axel, Axel Photo Art, puisque nous parlons de l'univers de la photo, une véritable passion hein, pour Axel, on en parle depuis le début de cette semaine. Et il y a des techniques peut-être un peu plus originales, alors en quelques mots, il y a des choses qui vous tiennent à cœur, c'est la photo 360 degrés, c'est les photos aériennes également qui font partie de vos petits chouchous.
Oui, alors j'ai beaucoup d'aspects de la photo qui m'intéressent, malheureusement, parce que je peux pas tout faire. Donc le HDR, effectivement, le light painting et le light drawing, désolé pour mon anglais.
J'ai le même, donc je comprends.
Light painting, c'est peindre avec de la lumière, et drawing, c'est dessiner avec la lumière. Donc ça dépend comment on oriente les sources lumineuses.
On va faire une petite démo dans un instant, ça sera pas forcément très visuel, mais voilà. La photo aérienne, c'est très très différent.
Donc la photo aérienne, ça fait longtemps que ça m'intéresse. J'avais commencé en faisant du parapente avec l'appareil photo. Maintenant, je le fais avec en ULM. Je suis passé bien sûr par les drones comme beaucoup de monde, que malheureusement, pour l'instant, j'ai mis en stand-by en partie à cause de la législation qui est très lourde pour faire des photos avec les drones, puisque pour survoler tout un tas d'endroits, faut demander tout un tas d'autorisations qui sont pas forcément faciles à avoir. Et donc pour l'instant, c'est plus photo ULM et photo 360 et light painting.
Donc voilà. On fait du parapente, on prend son appareil photo. Est-ce qu'il y a des moments dans la vie où on ne prend pas son appareil photo?
Dans le bain. Et encore.
On y pense.
Oui.
Donc ça veut dire qu'il y a toujours des occasions. On pourrait parler de l'abstrait, on pourrait parler du montage également. Il y a plein de choses qu'on peut découvrir sur le site. Puis vous verrez des anciens clichés d'Axel avec des pommes, avec des œufs. Je ne vous en dirai pas plus. Voilà. C'est des petites choses qui montrent aussi que, bien sûr, il y a des choses très techniques, mais on s'amuse aussi d'une manière générale. Quand on fait des photos, on laisse vagabonder son imagination et on peut partir un petit peu partout dans tous les sens.
Oui, ça c'était à mes débuts, effectivement, où je me suis dit, tiens, je vais photographier une pomme avec un sourire ou un œuf qui triste. Et je vous laisse aller voir sur le site. J'en suis pas forcément très fier, mais bon, c'était mes modèles de l'époque.
Voilà, donc on en garde une trace. Alors on va parler du light painting, puisqu'on en a parlé dès le début de la semaine et tout le monde attend de savoir qu'est-ce que c'est que cette technique du light painting. Certains sont allés sur le site axelphotoart.com pour voir de quoi il s'agissait. On est un peu bluffé. Effectivement, il y a une photo, il y a des traits lumineux qui jaillissent un petit peu partout comme ça. On a l'impression que ça a été refait forcément avec Photoshop derrière. Il n'en est rien.
Non, effectivement, le light painting, c'est une technique de peinture avec la lumière. On met un temps de pause avec l'appareil photo qui est un petit peu élevé, 10, 15, 20 secondes ou plusieurs minutes, ce qui fait que tout ce qu'on fait devant l'appareil photo est ralenti, on ralentit le temps. Et si on utilise une source lumineuse plus ou moins puissante, une simple lampe torche, si on la fait passer de droite à gauche, ça fait un trait de lumière. Donc on dessine avec la lumière. À partir de là, on peut laisser aller son imagination, on peut faire absolument tout ce qu'on veut. Ça fait longtemps que j'avais laissé tomber le light painting, mais à mes débuts, je me souviens, j'avais été dans un kiosque à Fethia, dessiné avec la lumière, j'avais fait comme si dans le kiosque il y avait des sources de lumière qui jaillissaient du kiosque. Et en fait, il y a des gens qui nous ont vu faire, ils nous ont pris pour des fous parce que j'étais avec un ami qui courait partout en baladant des lumières pendant une minute, qui courait, qui tournoyait des lumières partout. Et en fait, à la fin, ça fait une fontaine de lumière. Mais quand on le voit faire, on se dit, mais ils sont complètement fous,
ceux-là. On appelle la gendarmerie qui vient vérifier.
Oui, oui, surtout qu'il faut le faire en pleine nuit, puisqu'il faut pas d'autres sources lumineuses. Donc, ça peut sembler un peu bizarre.
Bon, on va faire ça dans le studio. Donc, comme ça, on aura de problème avec aucun voisin. Donc là, le principe, c'est qu'on récupère, c'est quoi? C'est un fil LED?
C'est un fil lumineux, tout simplement. Rouge. Donc l'idée, on va voir avec notre modèle, on va essayer de lui faire une sphère lumineuse avec un pauvre fil devant les yeux, comme si tu avais une boule d'énergie dans les mains. Donc tu mets tes mains comme ça. La difficulté pour la modèle, c'est que pendant 10 secondes, il faut même plus respirer. Donc j'appuie sur l'appareil photo, il va faire une série de bips pendant 10 secondes, et à la fin les bips s'accélèrent. Au dernier bip, tu respires plus, tu bouges plus, ni rien. Et donc j'éteins la lumière et je vais le faire.
Nous on peut respirer, c'est encore l'avantage. Nous sommes de l'autre côté de l'appareil.
Et là tu respires plus. Alors normalement je mets un gant noir pour pas qu'on voit mes mains, puisque ça éclaire mes mains. Voilà, donc là on va pouvoir voir le résultat sur la télé. Hop. Et on a une sphère lumineuse qui est pas très ronde parce que je me suis un peu loupé, mais on a une sphère lumineuse dans ses mains.
Voilà, effectivement, on se dit, mais on a vu les mains forcément devant l'objectif, on n'a aucune trace de main, même sans gants noirs pour les masquer, elles n'apparaissent pas, donc on a du mal à comprendre, voilà, en le voyant faire, comment c'est possible de n'avoir aucun bras, aucune main qui apparaissent à l'image.
C'est uniquement parce qu'on ralentit le temps et que je bouge pas spécialement vite, mais en 15 secondes, mes mains n'apparaissent pas. Après, on voit un petit peu les traits sur le côté, parce qu'effectivement, j'ai pas mis un gant noir. Si je mets le gant noir, ces traits-là disparaîtront, ça c'est juste la lumière qui a un petit peu éclairé mes doigts.
Et ça, pour le grand public, pour le néophyte, c'est quelque chose d'absolument magique. Je l'ai dit, quand on voit le résultat là, on peut pas imaginer qu'on a fait ça avec un appareil photo traditionnel.
Voilà, pourtant, non, c'est fait en direct. Là, on peut le voir, tout a été fait à l'instant et il n'y a pas de retouche du tout.
J'en atteste, effectivement. Donc, le résultat est assez bluffant. C'est très compliqué à expliquer, évidemment, en radio. Hein. Faut découvrir ça, prendre le temps de s'intéresser. L'idée, c'est ça. C'est une technique nouvelle. Des techniques comme ça, c'est des choses qui, peut-être, vont permettre à la photo de rebondir, d'évoluer aussi.
Je sais pas, parce que c'est quand même des techniques peu utilisées. Ce qui est sûr, c'est que les smartphones vont beaucoup évoluer là-dessus. Après, est-ce qu'il y aura encore une place pour les photographes plus tard ? Je sais pas. Il faut se faire plaisir, il faut figer des images parce que les images restent et c'est important, je trouve, quand on voit quelque chose de joli, de le figer.
Vous, votre envie, c'est surtout de transmettre, à la limite, de donner le goût de cette photo, de cette belle photo en tout cas.
C'est de partager des moments, des émotions, des paysages, de partager des belles images, tout simplement, oui.
J'ai vu qu'il y avait des castings sur le site, notamment, vous recherchez alors des choses très, très précises, hein, quand vous avez des demandes de castings, vous avez des idées en tête très précises.
Alors, c'est des castings, oui, à titre personnel ou professionnel, ça dépend, où j'ai des choses qui m'inspirent, ça peut être des poses, des angles, des styles, c'est très varié, mais c'est des choses qui m'inspirent, et si les personnes veulent postuler, elles peuvent, bien sûr. Si la personne après m'inspire pour le thème en question, ce sera avec plaisir qu'il y aura une collaboration.
Et donc ensuite, l'idée c'est d'exposer aussi son travail, hein. Les expositions, il y en a régulièrement, vous en avez fait en Limousin, mais ça s'exporte bien au-delà de la région également.
Donc effectivement, oui, j'ai fait plusieurs expos, j'en ai pas fait autant que je voudrais, faute de temps, parce que ça prend beaucoup de temps de faire une expo. J'ai une expo en cours actuellement aussi sur Paris, donc c'est plus grâce à une modèle qui aime beaucoup mon travail et qui donc a voulu exposer les photos qu'on a fait ensemble, donc à la boutique Démonia à Paris. Et cette année, je sais pas si j'aurai le temps de faire une expo, peut-être en fin d'année, je sais pas encore.
L'idée aussi de ces expos, c'est des moments de rencontre, on est présent et c'est l'idée de pouvoir échanger aussi avec le public.
Oui, lors d'expo, il y a le vernissage forcément, et c'est l'occasion de parler, de voir les personnes, ce qui leur plaît, ce qui leur plaît pas. J'ai fait une expo il y a 2 ans par exemple, sur ce que j'appelle la diffraction sensuelle, qui en fait n'a pas du tout plu, donc je suis content de l'avoir fait, parce que comme ça j'ai pas continué sur cette piste. Il y a d'autres choses qui ont beaucoup plu et que je ne m'y attendais pas en fait, donc je suis à l'écoute de ce qu'on me dit, bien sûr, de la moindre critique pour évoluer et faire des choses qui plaisent.
Et vous avez la sensation qu'il y a une curiosité, le public a envie de savoir, a envie d'apprendre, de découvrir cet univers de la photo?
Oui, il y a beaucoup de demandes, surtout de la macrophotographie, et ça me fait plaisir parce que c'est des demandes aussi de photographes professionnels qui veulent savoir vraiment la technique, comment je fais, et venant de professionnels, là ça me touche encore plus puisqu'ils connaissent déjà la technique, ils ont déjà la base de la photo, et quand ils viennent me dire « mais comment t'as fait ça ?», je me fais un plaisir de leur expliquer pour qu'ils puissent faire pareil, et c'est très, très valorisant, je trouve.
De beaux échanges en tous les cas. Le mot de la fin, peut-être pour ceux qui ne sont pas du tout dans cet univers de la photo, qui même à titre personnel ne s'y intéressent pas vraiment, n'ont que rarement un appareil photo entre les mains, même avec le smartphone, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour les inviter à partager, à découvrir cet univers-là ?
Qu'il ne faut pas hésiter, qu'il faut que tout le monde fasse de la photo, parce que tout le monde a un œil différent et une sensibilité différente. Il y a beaucoup de choses très jolies qui nous entourent, il faut tout photographier. L'intérêt, c'est de se faire plaisir, et si ça plaît à tout le monde, c'est encore mieux. Donc lâchez-vous, faites de la photo.